Radio Classique avec David Abiker.
C'est l'heure des voix de l'économie sur Radio Classique à 7h12. François, votre invité vient de publier « Et si on consommait mieux ?» aux éditions de l'Observatoire.
Bonjour Enrique Martinez.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du groupe Fnac Darty. Alors, l'hyperconsommation, l'instantanéité, le bling-bling, vous en parlez dans votre livre et c'est rare qu'on entende un patron, qui plus est dans le monde de la distribution, donc de la vente, hein, du commerce, critiquer ce qui peut sembler être une partie de son métier. Quelle est l'idée de ce livre ?
Bon, l'idée de ce livre, c'est de montrer qu'aujourd'hui, on est dans une impasse entre un mode de vie des dernières années et un impact sur la planète et l'écologie qui est insoutenable. Il faut qu'on trouve des nouvelles voies pour le rendre compatible. Et des exemples que j'ai cités dans mon livre et celles de mon groupe, ils prouvent qu'on peut avoir une vie harmonieuse et avec les conforts et en respectant les mieux possible, en prenant des bonnes habitudes, comme réparer, comme faire durer la vie des produits les plus longs possible, acheter des produits reconditionnés et bien d'autres. Et tout ça, c'est un mouvement qu'il faut entreprendre aujourd'hui parce qu'il est déjà tard.
Mais qu'est-ce qui provoque ce déclic chez vous ? Est-ce que vous êtes atteint par l'angoisse climatique ? Est-ce que c'est le fait d'être père de 4 enfants ?
Ben, je pense que qui ne l'est pas, c'est un inconscient, parce qu'aujourd'hui, on voit la limite de la planète, elle est rapidement atteinte. On voit que depuis 30 ans, on est habitué à un rythme de consommation des ressources qui... Personne n'imagine que les prochaines 30 ans, on aura droit à faire la même chose. Donc il faut rapidement qu'on change nos habitudes. On voit que cette transition est très dure à prendre. On consomme de plus en plus de carbone, même si on essaie d'électrifier l'économie, par exemple. Donc on voit qu'il n'y aura pas de magie, mais il n'y a pas de temps à perdre. Donc nous, on est... Pourquoi j'ai fait ces livres, en fait? Je pense que quand on a un groupe qui a 40 millions de consommateurs à qui on parle tous les jours, on n'a pas les droits de pas rien faire. Et ça, c'était un engagement.
Vous dites, si nous ne faisons rien, notre génération sera impardonnable. Donc, malgré le discours devenu général de l'urgence climatique, ça veut dire qu'il y a encore du greenwashing et il y a encore de l'inaction.
D'abord, je ne critique personne, je ne donne des leçons à personne. Je pense que chacun doit prendre sa responsabilité.
Mais vous laissez entendre que votre génération, cette génération, n'est pas encore complètement à la hauteur de l'enjeu.
Ben, je pense qu'on peut faire mieux et on doit faire beaucoup plus vite. Et surtout, si on ne les fait pas, on ne peut pas juger les jeunes qui ne sont pas encore en pouvoir, en responsabilité, à eux prendre la responsabilité de faire la différence. Eux, ils nous disent, mais nous, les jeunes, on consomme à peine. Pourquoi nous demander à nous d'être exemplaires ? C'est vous qui vous êtes responsable. En fait, c'est un enfer de tous.
Oui. Toute la question, Enrique Martinez, c'est celle du rythme, puisqu'on voit des majors pétrolières très critiquées évidemment pour leur métier de base, qui vont assez loin dans la transition, puis qui parfois reviennent en arrière, ce qui est potentiellement désastreux. C'est parfois pire d'aller trop vite. Comment être sûr qu'on va au bon rythme ?
En fait, tout ça c'est très complexe parce qu'il n'y a pas une évidence d'un modèle économique différent de ce qu'on vient de vivre. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que la globalisation a eu un impact énorme. C'est pour ça qu'on s'est habitué à acheter des produits beaucoup et pas cher et dans tout le temps. Et c'est pas se poser la question des réparer parce que c'était finalement pas si cher acheter tout jeter. Les tout jetables, c'était presque une mode. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait faire semblant de rien s'est passé pour pouvoir continuer, mais on peut pas. Et donc, il faut prendre des habitudes. Et prendre des habitudes, pour moi, consiste à chacun prend ses responsabilités. Et puis, et j'ai parlé dans mon livre, j'ai osé donner quelques pistes pour travailler ensemble. Oui. C'est, il faut faire un cadre pour permettre aux entreprises qui veulent faire cette transition de le rendre compétitif par rapport à d'autres qui ne le sont pas. À niveau territorial, à niveau de la compétition, à niveau des règles. Donc, il faut créer un cadre. Et en France, je pense qu'en Europe, on est quand même dans un cadre assez strict, mais il faut les faire respecter à tout le monde, sinon c'est trop simple.
Les
mauvais élèves, ils vont gagner. Et c'est pas possible, parce qu'il faut que tout le monde se mette dans les bons côtés de la classe.
Est-ce que cette transition, il y a donc vous demandez un cadre, est-ce que cette transition écologique, elle se fait aussi forcément avec des subventions publiques, et donc avec un coût énorme pour les finances publiques ?
Moi, je n'y crois pas trop. Je pense que l'argent public, il doit servir à... Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des défis des financements de la société, de la transition démographique.
Mais quand on prend l'exemple de la voiture électrique, par exemple, qui aujourd'hui nécessite, pour être adoptée par un maximum de ménages, des subventions gigantesques, hein, jusqu'à 13 000 euros pour le leasing social.
Je pense pour faire lancer une activité, pourquoi pas, mais après l'industrie, et je vois l'exemple, je cite de Luca de Meo chez Renault et d'autres, à chercher des voitures à bon prix pour pouvoir accéder au grand nombre. parce que la transition écologique, ça ne peut pas être une affaire des quelques peu et surtout pas des quelques peu qui sont beaucoup d'argent. Il faut qu'il soit accessible à tout le monde. Mmh. Et pour ça, il trouver des astuces. Il y a des choses qui seront un peu plus chères et d'autres choses qui les seront moins. Et en tout temps, il faut peut-être qu'on soit un peu plus économe de la manière qu'on consomme l'énergie, les produits. Réparer, c'est un bon geste. Et en plus, ça rapporte de l'argent. Donc, il n'y a pas que des choses qui vont coûter beaucoup plus cher.
Ouais. Vous mettez donc des propositions concrètes sur la table dans ce livre, comme le compte carbone individuel. De quoi s'agit-il ?
Bon, évidemment, c'est loin d'être un texte de loi, mais moi j'ai dans l'exemple de qu'on a une entreprise comme les nôtres et comme tous les autres, ils sont en train de mesurer son impact carbone et ils mettent des mesures pour les réduire. C'est une bonne voie, et pourquoi pas l'amener à un niveau individuel. Et j'ai dit, il y a des choses que j'invite tout le monde à regarder. Et
donc on a un compte avec un certain nombre de points qui s'épuisent selon notre mode
individuel.
De consommation.
Il y a un bilan, c'est un truc qui s'appelle les bilans de 2 tonnes. Et faites vos bilans individuels, dites combien de carbone vous, chaque année vous produisez, et après, dites-vous qu'est-ce que vous pouvez faire un peu différemment pour les réduire. Ouais. Si tout le monde fait pareil, bah, tout le monde, et collectivement, on aura un impact qui est assez significatif.
Vous êtes le patron de Fnac Darty, et vous ramenez en quelque sorte tout ce propos que vous venez de développer, ce propos du livre, également au contrat de confiance, le fameux contrat de confiance lancé par Marcel Darty à l'époque.
Les frères Darty.
Vous en reproduisez un exemplaire en 73.
C'est un contrat assez magique. En fait, ils s'engageaient à être aux côtés du client pour les bons et pour les mauvais, pour les aider à choisir le bon produit, mais après pour les accompagner dans la durée, les faire réparer. C'était déjà une modernité folle quand on y pense. Et c'est évidemment, on réinvindique ces contrats de confiance comme un des gros plus forts patrimoines du groupe qu'on vient de refaire et simplifier, les rendre encore plus simples à expliquer aux consommateurs.
Quand on voit le sujet du bonus réparation, vous êtes le premier réparateur de France, avec désormais, ça va aussi dans les vêtements. Est-ce que vous pourriez aussi aller dans d'autres rayons, dans la réparation, que la high-tech ?
Nous, on répare surtout nos produits, l'électroménager, pour lesquels on a 6000 techniciens formés, éduqués. Je pense que chaque filière industrielle doit trouver ses manières de s'adapter. Moi, vocation, c'est pas devenir un méga généraliste de la réparation.
Vous n'allez pas faire de la reconditionnement de voitures ou de vêtements?
Non. Je pense que pour ça, il y aura des personnes qui seront mieux placées que moi pour le faire. Déjà, nous, on a un défi des faire mieux dans notre catégorie de produits qui sont déjà des catégories qui consomment beaucoup des ressources.
Enrique Martinez, on s'interroge sur un ralentissement économique en France en ce moment. Comment se porte la consommation chez vous ?
La consommation, il souffre de tous les, ce que vous parlez tous les jours au quotidien ici, c'est, la baisse des confiances. Les consommateurs, ils sont pas encore trouvés en confiance dans le moyen terme pour ses économies personnelles et publiques. Et probablement, les sujets de l'inflation qui commencent à voir qu'ils se ralentissent et probablement, ça donnera des meilleurs espoirs pour l'année prochaine. Donc, l'économie française, il résiste globalement. Il n'y a pas un effondrement, il n'y a pas un cataclysme comme on entendait, mais c'est pas non plus de rythme des croissances, par exemple, que d'autres pays en Europe. Des États-Unis qui interpellent beaucoup les différents rythmes et les écarts qu'on prend par rapport à d'autres pays de nos zones un peu développées, par exemple comme l'Amérique du Nord.
Le rayon culture, la billetterie aussi, c'est important chez vous, ça nous tient à cœur, la culture à Radio Classique, est-ce que ça se porte peut-être mieux que le reste ?
Ça se porte bien. Et ça prouve bien que les clients, ils sont des arbitrages dans ces consommations. Et la culture, c'est pas une question accessoire, c'est une question des préférences. Et typiquement, vous dites, les sorties, les concerts, la musique, les livres, les marchés du livre, pour nous, et ça sera pas à seulement que pour mon livre, mais les marchés du livre, globalement, en France, ça s'est porté bien et c'est une très bonne chose.
Alors, je vous pose régulièrement la question quand on venait ici, Enrique Martinez, Daniel Kretinsky, premier actionnaire et de loin, 29%, pas de siège au conseil d'administration. Est-ce que c'est logique?
Ça veut dire que, il n'y a pas d'urgence de prendre la main sur la gouvernance parce qu'il est, je pense qu'il est d'énorme qualité. On a un conseil d'administration très solide et qui veille pour les intérêts de la société. Et autant qu'il, lui, soit d'accord avec les stratégies qu'on porte, je pense pas d'urgence à rentrer au conseil.
Là, il gère le dossier casino. On pourrait imaginer des rapprochements avec certaines entités de casino, des rayons Fnac dans les Monoprix ou que vous soyez avec Cdiscount.
On peut imaginer plein de choses. Hein. C'est pas forcément toutes des bonnes idées. Après, le futur dira ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, nous, on a une voix. Vous les connaissez. On est très axé sur accompagner nos clients, être très fort dans le digital parce qu'il y a un défi énorme des concurrences et surtout développer nos filières services pour nous rendre exemplaires dans l'exécution de ce que je propose dans ces livres.
Un patron s'engage, c'est le sous-titre de ce livre. Et si on consommait mieux, aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Enrique Martinez. Merci. Le patron de Fnac Darty ce matin avec nous.
Et si on écoutait François Geffrier dès demain, dès 6h pour la matinale de l'économie. À demain François, merci
ça,
à tous les deux. Dans deux minutes, les coulisses de la politique. Jordan Bardella sèche le débat sur les européennes mercredi prochain sur France 24. Mais pourquoi donc se fait-il remplacer ? Explication dans 2-3 minutes par David.